allons continuer notre service d'adoration par la lecture de la parole de Dieu telle que nous la trouvons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 25. Ésaïe 25 et le verset 9. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole et son influence dans notre vie. Amen.
Ce matin, j'aurais aimé vous dire que des temps favorables sont devant nous et que les choses iront de mieux en mieux. Bientôt, la crise économique et financière à laquelle la société fait actuellement face ne sera plus qu'un mauvais souvenir. J'aurais aimé aussi vous dire que la communauté scientifique internationale est actuellement en train de trouver des solutions pour résoudre les conséquences du réchauffement planétaire et de ses dérèglements. Ce sont de bonnes nouvelles. J'aurais aimé encore pouvoir vous dire que le G20 va sûrement trouver les moyens de résoudre le problème de la redistribution des richesses terrestres qui est trop inégalement répartie dans le monde, quand on sait que les trois grandes fortunes, merci d'envoyer la diapo, quand on sait que les trois grandes fortunes, c'est-à-dire Carlos Slim, Bill Gates, que vous apercevez derrière moi, enfin peut-être un petit peu, et Warren Buffett, se partagent à eux trois l'équivalent des revenus de 600 millions de personnes pauvres ou très pauvres de la planète. Je vous aimais encore pouvoir vous dire que la situation israélo-palestinienne connaîtra enfin un dénouement et que toutes ces violences qu'a connues la région, enfin, s'apaiseront. Je vous aimais pouvoir vous dire que les chiffres de plus de 8 200 000 personnes qui vivent en France en dessous du seuil de pauvreté, ces chiffres-là vont baisser. J'aurais aimé encore pouvoir vous dire que dans les familles et que les relations vont s'améliorer, ne nous inquiétons pas, et que tout ira mieux dans le meilleur des mondes que nous préparent les grands dirigeants de la planète. J'aurais aimé encore pouvoir vous dire, enfin bon, en fait, vous avez déjà compris qu'il n'en sera rien. Car il faut se rendre compte aujourd'hui d'une évidence, c'est que les choses sont dramatiquement en train de se généraliser et vont non seulement s'accélérant, mais en s'amplifiant. Il y a aujourd'hui, globalement, un consensus pour reconnaître que plus rien ne va dans ce monde. C'était les propos tout à l'heure de notre frère. C'est une prédication à deux voix. Même ceux qui n'ont pas l'éclairage des Saintes Écritures l'admettent. Écoutons les remarques d'un expert qui s'appelle Pierre Calame, peut-être que nous connaissons, qui était à l'époque, il a fait cette déclaration, il était donc responsable de l'Institut des recherches et des débats sur le gouvernement du monde. Il dit ceci dans son analyse de la situation. L'humanité est en situation de rompre les équilibres fragiles dont dépend la vie sur la Terre. Sans doute cette rupture est-elle déjà entreprise. Mais malgré la gravité de la situation et le foisonnement des conférences internationales et des discours, aucun dispositif de régulation efficace, à la hauteur des défis et des enjeux, n'a vu le jour. Il continue en disant « Les relations entre États se révèlent incapables de déboucher sur les stratégies courageuses à long terme que la situation exige. » Un peu plus loin, il dit « Au cours des 50 dernières années, le monde a changé à une vitesse considérable, bouleversant le contexte dans lequel les institutions internationales avaient pris naissance sans que des drames de caractère global ne suscitent un sursaut d'équivalent. » Et pour finir, il dit « L'humanité est en train de changer d'air. » Mais les conceptions, les institutions et les pratiques de la gouvernance n'ont pas suivi. en particulier à l'échelle mondiale, au point donc de se doter des institutions et des règles nécessaires à son épanouissement, à sa paix et surtout à sa survie. Monsieur Pierre Calam, peut-être que nous le connaissons, mais il est en train de dire l'Évangile, tout simplement. Et oui, que l'on soit un observateur attentif ou non, cela ne peut échapper à notre attention que la terre convulse, qu'elle se tord de douleurs de toutes sortes. L'apôtre Paul ne nous dit-il pas dans Romains 8 que la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement et qu'elle attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu? Seuls ceux qui sont dans l'espérance ont une lecture différente des événements, parce qu'ils sont éclairés par les déclarations du Seigneur contenues dans sa parole. Et c'est un immense privilège. Et pour bien comprendre à quel point c'est important de savoir interpréter les événements, Matthieu, au chapitre 16, nous rapporte les reproches de Jésus à ceux qui lui demandaient un signe. Il leur reprochait de ne pas savoir reconnaître les signes des temps dans Matthieu 16, verset 2. Regardons ce que dit Jésus. Il dit Jésus donc, alors aux pharisiens et aux sadducéens donc, qui lui avaient posé la question, il va leur répondre, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner les aspects du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps ?» Il va encore leur dire dans Luc 21, je vous invite à prendre Luc 21, versets 29 à 31. Il leur dit une comparaison. « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Alors de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Vous savez qu'il est vrai que certains, voire même beaucoup, ils en ont fait leur spécialité de voir des signes dans les événements les plus insignifiants et du même coup, ils ont occupé donc l'actualité dans les médias. Mais en dehors de ces comportements hurlubuluesques, nous n'ignorons pas qu'il y a un enseignement biblique concernant l'époque que nous vivons. Et le rôle de l'Église est de les étudier à la clarté de la parole et aussi de leur attribuer leur vraie signification. Nous savons que Dieu le Père ne peut mettre un terme à l'histoire de l'humanité et à son œuvre salutaire sans en avertir les intéressés. Et à chaque étape de son plan, il a procédé de la même manière, et ceci depuis les temps immémoriaux. Comme il l'a fait pour annoncer donc le Fils, de même le Fils donc le fait pour annoncer la fin de toute chose. Et les révélations de Jésus vont être reprises dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Si donc Jésus n'a pas fixé de date à son retour, il a cependant répondu longuement aux questions qui lui avaient été posées par ses disciples concernant les événements qui surviendraient à l'époque approximative de son retour. Et il a aussi évoqué donc ces temps de grande turbulence que nous vivons dans un but de réveiller l'attention et aussi de nous maintenir dans une vigilance sans faille, et aussi de nous permettre de nous positionner à chaque étape des choses, avec certitude, dans notre attente. Et malgré cela, les Écritures révèlent que les mêmes adorateurs, les vrais, les adorateurs de Dieu, bien que conscients de la proximité de cet événement, eh bien, ils seront tout de même surpris par la soudaineté de ce moment. Dans 1 Thessaloniciens 5, et versets 4 à 6, il nous est dit, un moment dans ces textes-là, ce sera comme la venue d'un voleur dans la nuit. À la fin donc de son ministère terrestre, Jésus a illustré cela dans une parabole que je vous invite à prendre avec moi dans Matthieu 25, versets 1 à 12. Matthieu 25, versets 1 à 12. Comme c'est un texte qui est long, j'aimerais quand même que nous le lisions, prenons le temps de lire la parole de Dieu.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici les poux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. »
Merci. Le dernier, bien sûr, j'avais oublié de vous le dire. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans ce long texte, il y a plusieurs enseignements dans cette parabole qui pourraient donc être tirés. Mais ce matin, j'aimerais que nous arrêtions sur deux éléments fondamentaux et déterminants. Le Seigneur a choisi de faire un gros plan sur le moment qui précède la rencontre et le moment ultime où cette rencontre se fait, parce qu'il souhaite que nous menions une réflexion à ce propos. Nous savons globalement que les 10 jeunes filles représentent l'ensemble des personnes qui aujourd'hui sont dans l'attente du retour de Jésus. Elles se rendent donc à des réjouissances d'épousailles. Nous savons que l'époux, c'est le Christ. On peut penser que les termes vierges peuvent laisser supposer qu'elles sont fidèles à ce message qui les a amenées à espérer, alors que même l'époux semblait les avoir oubliées. Chose étrange, elles sont en possession de deux objets plutôt insolites pour se rendre à un festin de noces. Une lampe, mais avec une réserve d'huile pour 5 d'entre elles. On pourrait penser qu'un cadeau, des fleurs, un instrument de musique ferait davantage l'affaire dans une noce qu'une lampe. Dans cette parabole, c'est un symbole que nous devrions identifier et se poser donc la question de savoir pourquoi la prendre en cette circonstance. Et c'est un autre passage qui va nous aider dans les psaumes 119, verset 105, que je vous invite aussi à prendre avec moi.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Voilà. Alors, on peut conclure que la parole de Dieu était pour elle l'élément jugé indispensable qui devait les accompagner à cette rencontre importante. C'était en quelque sorte leur feuille de route. Et la suite de la parabole nous montre qu'elles avaient en plus une utilité pratique, parce que l'époux va arriver de nuit, qui est symbole des temps très troublés, confus, temps d'angoisse, cité dans Luc 21, verset 26, où il est dit « Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui va survenir sur la terre. » Et qu'elles donc elles auraient besoin d'être éclairées afin de toujours donc se positionner, afin toujours de maintenir le cap et ne point se laisser troubler, se laisser envahir par les soucis de la vie. Un autre élément assez significatif, c'est que 5 d'entre elles étaient en possession de lumière supplémentaire. Symbole, la lumière est symbole donc de la parole de Dieu. Et cette lumière était ignorée, cette lumière était négligée par les 5 autres, on ne sait pas pour quelle raison, mais on sait qu'en tout cas le manque de lumière supplémentaire va les disqualifier et elles seront appelées folles. Et elles ne pourront pas participer aux réjouissances donc de la rencontre avec l'époux qui a fait l'objet de toute leur attente et qui ne sera pas partagée par l'époux, à savoir l'époux va leur reprocher la qualité donc de leur préparation. Et c'est cette qualité de préparation qui va faire la différence. C'est une situation bien triste. Voilà une moitié de l'Église qui possède la parole, mais qui s'entend tout de même dire par le Christ cette phrase terrible du verset 12 « Je ne vous connais pas ». Elles sont littéralement ignorées par le Christ alors qu'elles l'attendaient. Si nous regardons donc un petit peu de plus près, nous pouvons comprendre pourquoi. Voilà dix jeunes femmes qui attendent. Elles ont les mêmes apparences, elles font les mêmes gestes. On a l'impression que ce sont des vrais adorateurs dans la forme. Elles manifestent une certaine piété. On dirait aujourd'hui qu'elles sont, ce sont des chrétiens politiquement corrects. Elles sont empreintes, pas néanmoins, de formalisme. En effet, elles sont visibles dans l'attente, donnent l'impression de passer du temps à la lecture, à l'étude, à la méditation de la parole, puisqu'elles sont en possession de leur lampe. On sait que ta parole est une lampe dans mon sentier. Elles s'identifient même dans l'assoupissement. Elles présentent des signes d'endormissement de la foi. Et elle prend même part au réveil final. Le texte nous dit « Toutes se levèrent et préparaient leurs lampes. Jusque-là, rien ne les distingue. » Néanmoins, le verset 8 laisse voir une autre raison. On va s'apercevoir qu'elles sont dépendantes de leurs co-religionnaires et pensent pouvoir se remettre en route et pensent pouvoir rebondir en comptant sur les autres. Elles disent « Donnez-nous de votre huile. » car nos lampes s'éteignent. Elle comptait encore sur cette ultime foi, c'est-à-dire la dernière, parce que jusque-là, leur préparation était dans la dépendance spirituelle, et elles ont ignoré que l'on ne peut pas vivre sa foi par procuration, au travers d'un tiers, qu'il soit parent, ami, ancien, pasteur. L'humilité ne se partage pas. L'adoration de Christ de cœur sincère ne se partage pas. La dévotion ne se partage pas. L'authenticité dans la démarche ne se partage pas. Et c'est ce qui va expliquer le comportement des cinq autres qui nous paraît un petit peu égoïste, mais simplement, elles avaient des choses qu'elles ne pouvaient plus partager. Seule compte l'expérience personnelle que l'on développe avec le Seigneur et qui doit être unique et authentique. Visiblement, elles découvraient là ce qui faisait la force de leur co-religionnaire. Lorsque nous savons que l'huile qui leur a fait cruellement défaut vers la fin, au moment où elles sont sur le point de toucher au but, est le symbole de l'Esprit Saint dont sera scellé chaque adorateur authentique dans la période précédant le retour de Jésus. Apocalypse 7, verset 1er, nous dit quelque chose de ce que nous pourrons lire ensemble. Dans Apocalypse 7, verset 1, le texte dit « Après cela, je vis quatre anges debout, aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. » On ne peut que rester interrogateur sur ce qui a manqué de si peu pour qu'elle participe à cette joie de la rencontre avec celui qui a été l'objet donc de leur affection. Permettez-moi de revenir sur la question du début. Je vous avais posé à savoir dans quel temps sommes-nous, chers frères et sœurs. En regardant cette parabole et compte tenu de la vision des choses que nous donne le Christ, nous pouvons sans hésitation dire que nous sommes dans les temps où chacun doit considérer cette parole, cette parabole, comme une mise en garde personnelle, une interprétation, mais en même temps un éclairage sur sa manière de se préparer pour le grand jour et que peut-être cessent les illusions qui nous bercent par un discours confortable qui toujours nous rassure, nous conforte, mais nous interpelle si peu et qui nous bouscule, pas du tout. Que cette parabole nous serve de cadre, car ce même Seigneur est aussi capable de dire « Je ne te connais point ». Lorsque nous lisons dans les témoignages, dans la page 70, c'est le premier témoignage, le premier livre, nous voyons que dans les temps que nous vivons actuellement, et nous sommes d'accord pour reconnaître que nous sommes dans l'imminence du retour de Jésus, nous voyons que beaucoup négligent la parole nécessaire à cette rencontre et qu'ils comptent sur la venue de la pluie de l'arrière-saison pour se préparer. Alors que, au moment de la pluie de l'arrière-saison, des victoires dans les vies personnelles devraient déjà être remportées pour espérer vivre avec un Dieu tout-puissant, un Dieu saint. Le Seigneur fit remarquer qu'un état d'esprit particulier devait caractériser tous ceux qui l'attendent. Un état d'esprit empreint d'une réelle piété, caractérisé par une étude sérieuse et méthodique, approfondie de la parole. Caractérisé aussi par un esprit de prière, un esprit de repentance, une réelle consécration dans l'humilité, dans le service. La persévérance et la vigilance aussi doivent faire partie de ces armes qui nous accompagnent. Alors j'ai envie de terminer en nous disant que cette parabole nous sert de guide et aussi d'alarme. Et pour répondre à cette question dans quel temps nous sommes, nous allons laisser le prophète Ésaïe nous peindre le tableau. Regardons dans Ésaïe 51, verset 4, nous allons voir. Il répond donc à cette question. Ésaïe 51, verset 4, il dit « Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille. Ma justice est proche, mon salut va paraître. » Et mes bras jugeront les peuples. Verset 6. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Alors j'ai envie de dire aussi, en même temps, Jésus nous dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et qui mettent tout en œuvre afin de dire, le verset que nous avons lu en préambule, voici notre Dieu en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen.